Charles de Foucault, Sous le ciel d'Afrique, par Jehan d'Ivray. Charles de Foucault naquit à Strasbourg, où son père, le vicomte de Foucault de Pontbriand, occupait un poste dans l'administration des eaux et forêts. Au vrai, la famille n'avait aucune attache alsacienne. Les Foucault étaient d'origine périgourdine, origine que ne démentait point le physique bien méridional du futur prêtre. Cheveux noirs, regard sombre, ou par instant, une rapide flamme passait, corps bien en chair que l'ascétisme devait affiner. Si l'on étudie consciencieusement cette figure, une chose entre toutes surprend l'observateur. Je veux parler de l'anomalie existant entre l'enfant indocile, le jeune homme indomptable, l'officier nonchalant, que ses biographes nous présentent, et l'homme d'action, l'explorateur, enfin le merveilleux apôtre que fut ensuite Charles de Foucault. Peu de débuts se montrèrent moins brillants que les siens. Peu d'élèves donnèrent à leur maître moins d'espérance. Pourtant le collégien, qui, son baccalauréat passé entrait à Saint-Cyr, comptait parmi ses ancêtres une lignée de héros dont l'exemple eût suffi à entraîner tout autre moins enclin que lui à cette paresse qu'il devait si cruellement regretter plus tard. De Saint-Louis à nos jours, les Foucault avaient marqué leur passage dans chaque siècle. L'armée et la cour les avaient vus remplir noblement les attributs dévolus à leur charge. Une croyance veut que, tôt ou tard, le sang des aïeux parle en nous plus fort que nous-mêmes et guide nos actes. Ce miracle s'accomplit-il pour le jeune Charles, ou bien fut-il le résultat du dégoût provoqué en lui par l'inutilité de sa vie et les plaisirs qu'elle lui donnait? Qui le dira? Toujours est-il que soudainement, alors que rien ne semblait faire prévoir un pareil changement dans le caractère de notre personnage, il suffit que le 4e hussard, dont il faisait partie à Pont-à-Mousson, se mua en 4e chasseur d'Afrique et dut prendre la route du désert pour qu'une nouvelle et forte passion s'emparât de l'officier. Combien d'autres ont connu la redoutable emprise des sables? La terre africaine enchante ou désole, et ceux qu'elle a une fois conquis subissent son joug et ne peuvent plus secouer l'envoûtement qui pèse sur eux. Charles de Foucault fut de cela. Une première déception l'avait poussé à une folle démarche. À la suite d'une réprimande de ses chefs, il donne sa démission et revient en France. Mais il n'y reste pas longtemps. En 1880, dans la petite ville de l'Est où il s'est retiré, parvient la nouvelle de l'insurrection de Bouhamassa dans le sud oranais. Charles de Foucault n'a pas une hésitation. Ses anciens camarades n'iront pas sans lui affronter les balles de l'ennemi. Il fait sa demande, obtient sa réintégration dans le régiment qu'il a volontairement quitté, et part, pour la première fois, prendre contact avec ces Arabes qu'un jour il ne voudra plus abandonner. La campagne terminée, Charles de Foucault est hanté par le désir de mieux connaître ces hommes, ce pays, dont il sent bien qu'il ignore à peu près tout. Le Maroc, alors encore inaccessible aux Européens, l'attire de préférence à toute autre contrée musulmane. Mais pour qu'il s'y rende, il doit obtenir l'autorisation d'un congé. On le lui refuse sans explication, qu'importe. Une fois de plus, le jeune téméraire démissionne et se met en quête du guide propre à le seconder dans son audacieux projet. Il gagne Alger, et tout d'abord étudie dans les livres comme sur la carte la route à suivre. C'est alors qu'il se rend compte de la nécessité qu'il y a pour lui de connaître la langue des indigènes. Pour pénétrer jusqu'à l'âme d'un peuple, il faut d'abord pouvoir le comprendre et se faire entendre de lui. Le hasard ici va servir de Foucault. En fréquentant les bibliothèques, il a fait la connaissance d'un homme à qui rien de ce qui touche à la terre d'Afrique n'est étranger. Oscar McCarthy, type étrange et passionnément intéressant. Grâce à lui, le projet de l'ex-officier prendra forme. McCarthy, qui jamais n'a pu entreprendre pour lui-même cette randonnée, tout en y rêvant nuit et jour, met au service de son nouvel ami toutes les connaissances qu'il a pu acquérir. Un juif du pays, Mardoquet, consent à accompagner Charles de Foucault en le faisant passer pour un de ses co-religionnaires. Il serait trop long de narrer ici les dangers, les surprises de ce curieux périple. Le résultat dépassa les espérances de l'explorateur. Sur ce Maroc ignoré, il rapportera non seulement des notes renfermant des aperçus remarquables, mais des croquis, des dessins, d'une inestimable valeur. De ce voyage accompli à pied au prix d'énormes fatigues, il ne s'attribue aucun mérite, ne veut retirer aucun bénéfice, aucune gloire. Qu'il me soit permis de citer ici un passage du beau livre que René Bazin a consacré à De Foucauld. Les régions défendues, sauvages, ont toutes ses préférences. D'un point de vue relevé sur les cartes, à un autre point également déterminé, il tâchera tout au moins d'aller par une route où personne n'a passé. Faut-il attendre? Il attendra. Payer plus cher les guides? Il paiera. Le danger, il ne s'en occupe jamais. Je crois, sur la foi de plusieurs hommes liés avec lui, que le sentiment de la peur lui était étranger. De retour à Alger, sa première pensée est pour sa famille, pour cette sœur qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Mais c'est à peine si, dans la lettre qu'il lui écrit, il parle du véritable tour de force qu'il vient d'accomplir. « Mon voyage, au point de vue géographique, marche assez bien. Mes instruments sont en bon état. Aucun ne s'est détraqué. J'ai visité des pays nouveaux et je rapporte, je crois, des renseignements utiles. » Pourtant, cette tendresse qui est en lui, Charles saura s'y arracher quand l'heure du grand sacrifice aura sonné. Ici-bas, dans sa solitude marocaine, il a longuement médité sur des choses qui, jusque-là, lui étaient demeurées étrangères. La foi de ses jeunes années, il l'a perdue au cours d'une existence agitée. Le désert la lui rendra. Arrivé à Paris, après les premières semaines consacrées à la famille, le futur ermite a de longues conversations avec différents prêtres éclairés. La conversion se prépare. Bientôt elle sera complète. Il ne faudrait pas connaître cette nature volontaire pour croire que la transformation se produirait d'un seul coup. De Foucauld était revenu en France en janvier 1886. Il ne fut ordonné prêtre qu'en mai 1901. Entre ces deux dates, il va mener la vie la plus extraordinaire pour un homme de sa race et de son temps. Tout d'abord, l'explorateur, l'écrivain, semble vouloir dominer en lui. Il publie deux ouvrages, Itinéraire au Maroc et Reconnaissance au Maroc. Ces livres obtiennent un grand succès. Tout le monde veut connaître leur auteur. 1000 légendes circulent sur son compte. On lui prête des aventures invraisemblables. Il laisse dire et sourit. Dans le coquet appartement qu'il a loué rue Miromesnil, il reçoit de nombreux amis, mais continue à se livrer à son occupation favorite, la lecture. Là-bas, en terre d'Afrique, il avait été frappé par la profonde piété des Arabes et des Juifs parmi lesquels il avait vécu. Ces gens possédaient la foi que lui-même avait perdue. Ces Africains connaissaient à fond leur religion. Lui, depuis longtemps, ignorait la sienne. Alors il se plongea dans l'étude des philosophes anciens et modernes. Un simple prêtre, l'abbé Huvelin, ami de sa famille, allait lui ouvrir de nouveaux horizons. Ancien normalien ayant embrassé la carrière ecclésiastique, après avoir connu et mesuré les déboires de la vie, cet homme fut l'envoyé prédestiné, celui qui, désormais, allait lancer De Foucauld sur la route qui devait le conduire au martyr. Des projets de nouveaux voyages, il n'était maintenant plus question, du moins en ce qui concernait les découvertes géographiques. Désormais, le nouveau converti ne quitterait la France que pour un exil pieux et seulement sur les ordres de ceux qu'il avait choisis pour directeur. Il ira d'abord faire une retraite chez les bénédictins de l'abbaye de Solesmes. Il part ensuite pour la Grande Trappe, monte à Notre-Dame-des-Neiges. Il se sent attiré vers ces religieux, souhaite ardemment leur ressembler. On l'accepte et l'est envoyé à la trappe d'Akbès, en Syrie, où il fait son noviciat sous le nom de frère Albéric. Même cette foi qui le brûle demeure impuissante à le fixer dans un monastère. Charles de Foucauld restera pour ses compagnons sous le vocable de frère Albéric. Il ne sera jamais père dans la grande famille des trappistes. Ses supérieurs l'ont jugé très vite un solitaire. Voilà ce qu'il doit être. Frère Albéric quitte le couvent et reçoit l'ordre d'aller étudier la théologie à Rome. Ses études terminées, son cas est jugé par ses supérieurs si particulièrement étrange qu'il donne lieu à de longues discussions. Enfin, on renvoie le frère Albéric en Palestine. Après toutes sortes de vicissitudes, il obtient l'autorisation de rentrer en France, revoit sa famille et retourne à Notre-Dame-des-Neiges où il est enfin ordonné prêtre le 9 juin 1916. Alors va commencer pour lui l'existence qui sera la sienne jusqu'à l'ultime minute. Le rêve caressé par lui va s'accomplir. L'abbé Huvelin, qui n'a cessé de le guider tant par ses lettres que par ses paroles, a écrit à Mgr Bazin, supérieur des Pères Blancs, en lui recommandant Charles de Foucault qui veut se consacrer à la conversion des musulmans et vivre la vie du désert. Laissez-le venir à ses risques et périls, voyez-le à l'œuvre et jugez-le. Mgr Bazin se laisse toucher. Charles de Foucault se met en route. Il s'appellera le Père Charles de Jésus et sa robe blanche sera bientôt le drapeau autour duquel se rallieront tous les isolés, tous les malheureux du Sahara. Il installe sa première mission dans l'oasis de Beni Abbès, où la population indigène compte 15 000 âmes. L'oasis n'est pas très éloignée du Maroc, ce Maroc dont De Foucault garde un impérissable souvenir. Beni Abbès a, sur d'autres lieux, l'avantage d'être largement pourvu de sources. Avec de la patience, du travail, le solarite se transformera, et c'est là que viendront se réunir autour de leur ancien chef les soldats des postes voisins. Le père Charles a pour tous le même fraternel accueil. Il ne se contente pas de remonter le moral des hommes qu'il consulte, de soulager les infortunes des nomades. Il ne nourrit pas seulement les affamés. Il trouve encore sur ses maigres ressources le moyen de racheter des esclaves. Mais De Foucault n'oublie pas qu'il est français et veut aider les officiers à mieux connaître le pays. Les Touaregs sont devenus ses amis. Un jour, pour mieux leur faire aimer sa patrie, le père obtient l'autorisation d'emmener avec lui en France l'un des leurs, le jeune Oukiem. Il le conduit dans sa propre famille, lui fait visiter villes et villages, l'initie à nos industries. Le Targhi se montre ravi. Ce voyage sera le dernier pour De Foucault. Il le sent et fait ses adieux aux êtres qu'il ne reverra plus. Il repart et de plus en plus s'enfonce dans le Sahara sauvage et inhospitalier. Il change d'ermitage, mais non point d'âme, poursuivant âprement la tâche qu'il s'est tracée. Les indigènes l'ont surnommé le marabout, mais les nombreuses conversions opérées par lui et plus encore peut-être l'aide qu'il a constamment prêtée à la France lui ont attiré la haine des Touaregs dissidents, ceux que les gens du Hogar désignent sous le nom de Felaga. Un jour qu'ils se trouvent seuls, ils accourent et encerclent l'ermitage. Parmi eux se trouve un misérable que le père a comblé de ses bienfaits. C'est lui qui leur ouvre la porte de son ancien maître. Les assaillants ligotent le prêtre et lui posent diverses questions relatives à la prochaine attaque de nos troupes. Adossé au mur, Charles de Foucault priait sans répondre. Lassé de ce silence, deux hommes se rapprochent et l'un d'eux, posant le canon de son fusil près de la tête du père, tire. Le martyr glissa doucement à terre. C'était le 1er décembre 1916. Comme il l'avait souhaité, Charles de Foucault fut inhumé à l'endroit même où il était tombé. Les honneurs militaires lui furent rendus et l'on vit plus d'une larme couler sur les joues de nos soldats. Car de Foucault a plus fait peut-être pour le nom de la France que d'illustres capitaines. Son nom même demeure vénéré chez les nomades du Sahara. Ainsi s'achève Charles de Foucault sous le ciel d'Afrique par Jean d'Ivraie.